silence, c'est le RAF qui m'avait téléphoné. J'étais dans un congrès, donc j'ai répondu un peu trop vite. Et après, une fois que c'était dit, il fallait bien suivre. Mais ça m'a au moins donné l'occasion d'y réfléchir avec lui sur ce sujet. Alors le thème qui avait été au départ défini, c'était, je crois, langage de Dieu et langage des hommes. Et à partir de ça, bon, j'ai essayé, avec l'aide du RAF qui m'a aidé à trouver des références qui soient autres que mes références habituelles, pour essayer d'avancer. Alors on va partir d'un texte qui est le texte de la Gemara, je crois, qui a été photocopié. Et plus exactement, dans ce texte de la Gemara, c'est vers le bas de la page, là où ça s'élargit. Et juste en préambule à ça, je pense que la question qui peut se poser par rapport au langage d'une manière générale, c'est que d'avoir besoin de définir les conditions du langage, ce que certains ont appelé les jeux de langage, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Le champ de la linguistique, c'est un champ qui est relativement tardif dans l'évolution du savoir, puisque c'est plus un questionnement sur les conditions de la connaissance que sur la connaissance elle-même. Et tous ces questionnements-là, qui sont en fait un peu détachés du réel, sont au fond virtuels, voire artificiels. Et sur le langage, on pourrait se dire que quel est le besoin de définir en particulier le sens des mots, quand on sait que le sens des mots se construit sur la base de l'expérience, et qu'on pourrait penser qu'il y a un langage naturel et qu'il n'y aurait pas fondamentalement besoin de définir le langage. Alors, j'essaierai au cours de cet exposé de travailler sur cette question de pourquoi faut-il définir les mots. J'avais toujours été frappé, on a essayé avec le RAF de trouver la référence dans quelque part. J'ai toujours eu l'idée que le commentaire de Rashi fonctionnait comme si la Torah c'était un grand dictionnaire et que les mots n'avaient de sens que dans leur contexte et qu'il passe son temps à essayer de trouver à propos d'un mot où est-ce qu'on va le trouver ailleurs et qu'à partir du sens qu'on lui trouve ailleurs dans le Tanakh, il va reconstruire un sens pour le mot et à chaque fois qu'il arrive. Et toutes ces occurrences des mots, on a l'impression qu'il faut les enfiler les unes après les autres dans le contexte dans lequel elles sont énoncées pour qu'on finisse par obtenir une définition des mots. Alors quand on dit ça, et ma femme est là, elle me dira typiquement c'est une fausse question parce qu'on parle bien, donc si on parle on n'a pas besoin de définir les mots qu'on emploie puisqu'ils sont forcément adaptés à la situation dans laquelle on les emploie. Et on a l'impression que le vocabulaire s'est construit à partir de l'expérience d'un individu singulier, Adam Harishon, qu'on entend une seule fois parler, ou presque pas d'ailleurs, c'est pour dénier, pour mentir. Le reste du temps c'est essentiellement les paroles des patriarches, et la parole de Moïse et de tous ceux qui protestent contre lui. Mais c'est toujours par rapport à ces individus-là, et ensuite dans le Tanakh, qu'on va définir l'usage des mots. Et très souvent, Rashi définit quelque chose en fonction du contexte dans lequel il est employé. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas forcément un langage naturel, que le sens des mots qu'on acquiert en apprenant à parler n'est pas nécessairement celui qu'on va employer pour lire le texte de la Torah. Mais peut-être encore plus important, si on considère que ce texte de la Torah, c'est la trame de notre existence, ça voudrait dire qu'il faudrait penser avec ces mots-là et pas nécessairement avec les mots qui nous viennent naturellement à l'esprit. Alors le texte de la Gemara vers lequel m'a dirigé le Rav, donc je vais le lire. Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, Aumnam Elem Tzedek Tedaberun, Mesharim Tishpetu, Eden Adam, Maum Amunat. Donc ça c'est la citation, qui est une citation qui vient des psaumes 58.2. En fait, c'est une citation qui est très sollicitée, puisque quand on la regarde dans son contexte, il n'y a même pas le mot « silence » à l'intérieur, il n'y a absolument rien qui parle du langage. Si on dit de parler de justice, et en fait, il faut aller chercher des traductions qui soient un petit peu dérivées. Donc, par exemple, la traduction du rabbinat n'emploie pas le mot « silence ». La plupart des traductions officielles n'emploient pas le mot « silence », et la plupart des commentaires traditionnels, Metsudat David, etc., sont pas du tout sur ça. En fait, ils parlent d'un contexte très particulier où le roi David reproche à Avner, à ceux qui l'ont jugé, qui l'ont calomnié auprès du roi Shaoul, de ne pas avoir ouvert la parole quand il s'agissait de le défendre, lorsqu'il avait eu l'occasion d'attaquer le roi Shaoul à l'intérieur d'une grotte, qu'il avait la preuve qu'il pouvait l'attaquer puisqu'il avait coupé un pan de son manteau et qu'il n'avait rien fait, qu'il avait fait porter cette preuve à Shaoul pour lui montrer qu'il n'avait pas de volonté mauvaise à son égard, et que personne n'a éprouvé le besoin, non seulement de justifier David, mais a au contraire encore une fois utilisé le langage pour accuser le roi David. Donc une accusation du roi David qui parle de juger, mais toujours de juger de façon négative, et de ne pas avoir eu l'opportunité, ne serait-ce que de se taire quand il s'agissait d'accuser, et de parler quand il s'agissait de défendre, donc de rapprocher la parole du tzedek, de la justice. Il y a ce lien qui est fait dans les psaumes. Mais il y a plusieurs traductions, et donc par exemple, il y a la traduction de Méchonig, qui est pas évidente comme souvent, mais enfin qu'il faut prendre, où il dit, y a-t-il vraiment... Donc ça, c'est, celle que je vais vous lire maintenant, c'est pas celle de Méchonig, celle de Méchonig, c'est « Est-ce vraiment le silence de la justice que vous parlerez ? Est-ce qu'en droiture, vous jugerez le Fils de l'homme ?» Donc on dirait que la justice, c'est un silence. Est-ce le silence de la justice que vous allez parler ? Et est-ce que c'est avec la droiture que vous allez juger ? Donc la traduction qui nous est proposée, dans en particulier le Hard Scroll, mais la traduction que les Mépharchim, d'une manière générale, ont prise sur cette traduction des psaumes, c'est « Est-ce qu'il y a vraiment un silence ? Vous parlerez-je juste ? Vous jugerez votre peuple avec équité ?» Donc on a un lien entre la parole et la justice. Et l'équité, on verra peut-être un petit peu plus tard de quoi il peut s'agir. Mais le silence est employé d'une façon très précise. On dirait que c'est le silence qui est opérationnel et que la parole serait opérationnelle. Mais là où ça devient, comme toujours, étonnant avec la Gemara, c'est qu'on joue déjà sur « ilem », donc qui est ici utilisé dans le sens de silence, et on joue aussi sur l'expression « aumnam », qui en fait, dans cette occasion-là, est plus une question qui est posée par le roi David. Et où ce que dit la Gemara, donc c'est Ma Umanuto shel Adam, Barola Mazé. Donc quelle est la tâche, quel est le métier de l'homme dans ce monde? Yassim Ratsmo Keilem, qu'il se fasse comme un silencieux, comme un homme mutique, en fait, qu'il adopte la mutité. Donc le métier de l'homme dans ce monde, ça serait de se taire. Alors la suite de la Gemara, en fait, je vais la lire, mais on y reviendra un petit peu plus tard. C'est, donc ça voudrait dire que, en fait, dans ce monde-ci, il n'y aurait qu'à se taire et rien d'autre à faire. Donc, en guise de parole, c'est de ça qu'il s'agit. Et la question que pose ensuite la Gemara, c'est Yachol af les divrei Torah. Est-ce que ça concerne aussi les paroles de la Torah? Talmud Omar, donc la suite de Talmud Omar en l'occurrence, c'est la suite du passage qu'on vient de lire. Tzedek tedaberun, donc vous parlerez de justice. Donc, on a une occasion de parler, c'est pour parler de justice. Et tout le reste, ça devrait être du silence. Et puis la suite, qu'on verra très brièvement, parce que ce n'est pas au cœur encore que de notre exposé, c'est Yachol Yagis Darto. Est-ce que ça lui permet de se glorifier? Puisque finalement, ça veut dire que l'homme, quand il va parler dans la Torah, il va pouvoir se proclamer comme juste. Le fait de s'appuyer sur la Torah, ça lui donne une légitimité pour parler de justice. Et Talmud Lomar, la réponse, donc le texte dit Mesharim Tishpetu Bene Adam. En fait, c'est simplement on vous donne l'usage de la parole pour juger. Mais elle ne vous appartient pas. En réalité, c'est simplement un prêt qui nous a été fait de la parole. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Ce n'est pas du tout un titre de gloire de pouvoir parler dans la Torah. Il a bien fallu vous donner accès à la parole pour pouvoir juger. Mais finalement, il aurait mieux valu que vous puissiez vous taire tout le temps. Donc il y aurait en fait, on dirait que la note fondamentale de la vie de l'homme, ça serait le silence. Et Umanuto, donc on a regardé. Umanut, il y a une façon de dire que ce qu'est le métier, c'est ce qui va différencier un homme par rapport à un autre. On pourrait dire que chacun a une espèce de tâche à remplir qui va être le métier de sa vie, le métier de vivre, comme disait Pavès, mais en l'occurrence, ça ne s'applique pas ici. C'est vraiment un métier d'exister. Et ce métier se définirait. Et donc, il y a par exemple, c'est le Rav qui m'avait aussi donné cette référence, c'est dans Devarim, un Nekba Minak Derecheret. Donc, il y a cette controverse entre savoir s'il faut travailler ou étudier. Et on dit, conduis-toi dans elle, dans la Torah, selon l'usage du monde, en fait, selon l'usage de la terre, le Derech Eretz. Donc en fait, la parole serait associée à l'action, et c'est elle qui définirait le Derech Eretz, si on considère que c'est le métier de l'homme. C'est là-dedans que s'instille le sens de la Torah. Et puis une dernière citation sur Umanout, c'est à propos de la mer Rouge, où il est dit que les Bnei Israël ont repris la Umanout de leurs ancêtres. Ils ont repris le métier de leurs ancêtres. Quand ils ont chanté à la mer, quand ils ont repris cette tâche, ils se sont inscrits dans un métier qui était celui que leur avaient appris leurs ancêtres. Donc il y a quelque chose qui serait le métier, qui serait le sens de l'existence, finalement, enfin tout au moins son but, et qui se rapporterait au silence. Alors si on dit ça, on ne comprend pas très bien pourquoi on parle tellement, d'une manière générale, et pourquoi la Torah parle tellement, pourquoi nous avons fourni un texte aussi riche, et aussi pourquoi il y a une prolifération de l'écrit, une prolifération de la parole, pourquoi on considère que la Torah chez BLP, c'est encore plus important que la Torah écrite. Donc j'ai écouté le séminaire très tardivement hier soir. Et manifestement, il y a un besoin d'élaborer de la parole à partir du texte écrit. Et puis surtout, on comprend que, mal quelque chose qui est la définition même de l'homme dès sa création, puisqu'on dit au moment de la création de l'homme, Vaipar Beapav Nishmatrayim, donc il a insufflé dans sa bouche une âme de vie, et que le Targum Onkelos traduit, donc c'est très célèbre grâce au Nefesh HaChaim, Ruach Memalela, un souffle qui parle. Ce qui définit en fait Nishmatrayim, ce qui a été insufflé à l'homme, l'âme de la vie, c'est le souffle qui permet la parole. Et ce qui est encore un petit peu plus paradoxal, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est-à-dire qu'on a donné à l'homme quelque chose qui va le caractériser, puisqu'on a l'habitude de dire que le langage tel que nous le parlons, les animaux ne le parlent pas, ce langage, ça lui donne à l'homme, Vayi Adam le Nefesh Raya, l'homme devient une âme vivante, et Nefesh Raya, c'est exactement comme ça qu'on définit les animaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour être au même niveau que les animaux dans le règne du vivant, l'homme doit se définir par la parole. Il n'y a pas forcément une supériorité, mais ce n'est pas le sujet de toute façon, mais ce qui va faire de l'homme, qui va lui donner un statut de Nefesh Raya, d'être vivant, c'est le souffle de la parole. Donc le langage a l'air d'être quelque chose qui va définir l'homme et qui lui donne une originalité, voire une forme de noblesse. Alors pourquoi est-ce que si la parole est si importante, nos Chachamim vont nous dire que c'est le silence qui est finalement la valeur la plus sûre? Comment est-ce qu'on peut concilier ça? Alors j'ai pris la liberté, avec autorisation, de faire un détour par un texte en fait que j'ai jamais très bien compris, mais qui m'a toujours interpellé, que j'ai découvert grâce à Stéphane Moses dans L'Ange de l'Histoire, qui est un texte de Walter Benjamin sur le langage. Alors, vous inquiétez pas, après ça va revenir sur la Torah, mais en fait ça ne s'en éloigne pas tellement. Alors, je sais pas si vous connaissez ce texte, c'est un texte extrêmement mystérieux, c'est un texte qui a fait penser que Benjamin était un auteur hermétique, et pas herméneutique, donc un auteur finalement assez obscur. Et c'est un texte qu'il a écrit en 1916, dans un contexte un peu particulier, en particulier d'échange avec Martin Buber au sujet d'une revue qui s'appelait Der Jude, qui était la grande revue allemande des juifs allemands dans ces années-là. Et Walter Benjamin répondait à Martin Buber, qui lui proposait d'écrire dans son journal, donc cette revue Der Juden, qui était très prestigieuse, puisque à l'époque, l'intelligentsia juive allemande était vraiment une élite. Et en fait, il refuse. Alors, on peut penser, les explications en général, c'est qu'il était très irrité parce que les juifs allemands, et même ceux-là, avaient pris une attitude très belliciste au moment de la guerre de 14, et que ce journal s'était fait un peu le porteur de cette implication des juifs allemands dans la nation allemande. Allemande et dans la guerre. Mais il ne justifie pas du tout comme ça son refus. Il y a un texte qui est un peu long, mais je vais vous en lire juste une petite partie. C'est qu'il dit qu'il a, ces dernières années, été amené à beaucoup réfléchir, il semblerait que ce soit plutôt ces derniers mois, beaucoup réfléchir sur la parole. Et il fait état d'une sphère de défaillance du langage qui éclate avec une puissance qu'aucun mot ne peut dire. Le sentiment peut jaillir entre le mot et l'acte, dynamisant l'étincelle magique qui serait l'unité de l'un et de l'autre, donc entre le mot et l'acte. Donc ce qu'il dit, qui me paraît important, qui va bien avec le texte qu'on va lire après, c'est « Il n'y a que l'orientation soutenue des mots vers le centre le plus reculé du silence qui parvienne à la vraie production d'un effet. » En d'autres termes, il faudrait que le langage soit une façon d'aller chercher le silence. « Je ne crois pas que le mot, où que ce soit, soit plus éloigné du divin que l'action humaine effective, et non plus donc qu'il soit apte à conduire au divin, autrement que par lui-même, en sa qualité la plus pure. » Donc il attribue une valeur intrinsèque au langage, et il conclut avec quelque chose qui va être essentiel dans ce qu'on va lire après. « Quand le langage devient moyen, il prolifère. » Quand le langage devient un instrument de communication, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sens par lui-même, mais d'être un véhicule de quelque chose d'autre, qui serait simplement une valeur d'échange, il y a une prolifération du langage, et cette prolifération du langage lui fait perdre toute sa légitimité. Alors, ce texte, il fait référence, il y a tout de suite après une lettre qu'il envoie à Gershom Scholem, son grand ami, comme chacun sait, où il lui explique qu'il a refusé d'écrire dans la revue de Buber, et qu'en ce moment, il vient de faire tout un travail qui lui avait au début... il avait au début l'intention de lui adresser comme une lettre, mais en fait, ça s'avéra un travail très très long, qui est devenu ce texte, donc texte qui est paru beaucoup plus tard, qui est donc sur le langage. Alors comme le texte est long, en fait, je vais vous en lire la petite synthèse qu'on a faite qu'on a fait au Stéphane Moses, parce que c'est une exégèse du récit de la Genèse, plus exactement du deuxième chapitre de Bereshit, mais une exégèse mot à mot, c'est-à-dire que c'est un travail qui se fait mot après mot, donc c'est dans les œuvres de Walter Benjamin, dans le tome 1 de l'édition Folio, et il va distinguer dans l'histoire biblique de la Genèse du langage, donc il parle de la création du langage, et il va distinguer trois grandes étapes. Alors on verra comment lui les lit, comment les Mefarshim ont un décalage par rapport à cette lecture, sans forcément qu'on perde l'essentiel de ce qu'il en est dit en faisant ça. Donc il distingue trois étapes. Dans la première étape, il n'y a que la parole divine, et la parole divine est créatrice. Donc ceci désignerait le langage dans une essence originelle, là où il y a une coïncidence parfaite entre le langage et la réalité, d'autant plus parfaite que c'est le langage qui créerait la réalité. On sait que, par exemple, Philon et toute la culture hellénistique qui a proliféré à partir de ça avait attribué une valeur très forte au logos, puisqu'on dit « au commencement était le verbe ». Une des traductions classiques dans notre civilisation, c'est dire que le verbe a précédé le reste. Nous, on dit que c'est la Torah qui a précédé le reste, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il y aurait une fonction du langage qui serait une fonction poétique, comme on dit en poésie, donc de création. À partir de cette fonction du langage, le mot entraîne la chose, instantanément. En fait, il y a une coïncidence immédiate. Il y a une immédiateté, donc le mot essentiel, il n'y a pas de médiation entre le mot et la chose, c'est direct. Ça, c'est la parole divine qui précède la création de l'homme. Donc à ce niveau-là, l'homme n'aura jamais accès à ce langage selon Walter Benjamin. On verra que ce n'est pas forcément vrai. Il n'y a pas de dualité entre le mot et la chose, donc le langage est créateur de vérité. Donc ça, c'est l'interprétation qu'en a Stéphane Moses, mais c'est vraiment le sens littéral du texte. La deuxième étape... dans le récit biblique toujours, donc là on passe, avant c'était de 1 à 31, donc c'est vraiment le début de Bereshit, là on passe au chapitre 2, de 18 à 24, il y a ce texte très célèbre, qui est le moment où l'homme va nommer les créatures. Alors l'homme va nommer les créatures, et nommer les créatures, donc c'est, donc Vayavé el Adam, Lirot ma Yekarlo, donc Dieu a fait venir vers l'homme, qui devait nommer, et kol asher ikra lo Adam, nefesh raya ou shemo. Et tout ce que l'homme a nommé, nefesh raya, il s'agissait donc des animaux, et par exemple Hirsch, on y reviendra, ne parle pas des bêtes sauvages, en fait, il ne parle pas des animaux domestiques, je ne sais pas si ça existait d'ailleurs, tout ce que l'homme va désigner, ça devient son nom. Donc il y a un moment très particulier où on n'est plus dans le langage divin, on est dans un langage de l'homme, mais ce langage de l'homme, s'il n'est plus un langage créateur, devient quand même un langage de la réalité, un langage qui parle de la réalité, même mieux que ça, qui désigne la réalité au sens qu'on emploie pour le mot, qui va définir quelque chose, lui donner ses contours, lui donner ses caractéristiques, et coïncider parfaitement avec cette réalité. Alors vous savez qu'il y a une discussion, par exemple, entre le Rambam sur savoir si c'est l'homme qui a donné la réalité par en les nommant, ou si c'était vraiment qu'il a compris la réalité des choses en les nommant. Les deux peuvent se lire, et c'est pas non plus le sujet. Mais il y a un moment... où on peut dire qu'il y a une fonction symbolique très forte, mais une fonction de désignation très précise du réel, et où en attendant, ce langage est légitimé, puisque c'est vraiment le nom que vont porter les espèces animales. Et puis, donc il y a une identité. Et puis vient une troisième étape. Alors dans le texte de Walter Benjamin, c'est un peu compliqué, parce qu'il ne veut pas tout à fait rattacher ça à la faute d'Adam Harishon, il veut rattacher ça plutôt à l'épisode de Babel, mais il va chercher, on essaiera peut-être si on a le temps de voir comment il fait le lien entre la faute d'Adam Harishon et ce qui s'est passé au moment de Babel. Mais à partir de l'un, alors on peut dire que la faute d'Adam Harishon va être celle qui va conduire éventuellement à la survenue de Babel. Il y a une filiation entre ces deux événements, mais la conséquence de Babel, c'est le mélange des langues, le balbutiement du langage et le moment où le langage ne devient qu'un instrument de communication. Et donc ce que Walter Benjamin dénonce, c'est qu'aujourd'hui, donc en 1916, mais enfin c'est encore plus vrai aujourd'hui, on est passé d'une civilisation du langage à une civilisation de la communication. Donc on est passé de l'essence à une forme de parole, et de la parole on est passé à la communication. Donc le langage n'a plus de valeur en tant que tel, ça n'est qu'une valeur d'échange, ça n'est qu'une valeur d'usage. Et ça, contre ça, il va s'insurger. Alors je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais il y voit des remèdes, qui sont des remèdes un peu particuliers, on en parlera peut-être à la fin. En fait, il attribue d'une part au poète, et bon, il s'inspire beaucoup d'Hölderlin, mais à mon avis, dans la mauvaise, dans la lecture à l'allemande de le néo-paganiste, mais surtout il va s'appuyer sur le rôle du traducteur pour dire que si on est capable de traduire d'une langue à l'autre, c'est qu'on peut se rattacher à un autre sens intermédiaire qui a un sens un peu un métasens au-delà des mots. On y reviendra peut-être tout à fait à la fin, si on a le temps. Alors cette lecture donc de Walter Benjamin donc va donner au langage que nous employons aujourd'hui un statut extrêmement déchu qui explique que le prétexte ou la raison qu'il va donner à Martin Buber pour refuser d'écrire dans son journal, c'est d'éviter la prolifération de l'écrit, c'est d'éviter la prolifération du langage, puisqu'il ne faudrait pouvoir parler que si on est allé chercher un silence fondamental, sinon il y a une prolifération du bavardage, et cette prolifération du bavardage n'apporte rien. Et ça m'a fait penser, donc je m'éloigne encore un peu plus, et après, vous inquiétez pas, on va revenir, à un texte que je ne veux plus, de Borges, qui s'appelle « De la rigueur de la science ». Je n'ai pas de légitimité à en parler aujourd'hui, mais c'est un texte qui est magnifique, qui est dans l'auteur et autres textes. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment de lui, parce qu'il donne une fausse citation, mais Borges adore donner des fausses citations de livres qui n'existent pas pour étayer ce qu'il raconte. Alors je vous lis ce passage, c'est pas long du tout. Alors, il parle d'un empire, et il dit que dans cet empire, l'art de la cartographie parvint à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville, et la carte de l'empire toute une province. Donc déjà des cartes complètement obsédées par la précision, qui sont énormes. Mais avec le temps, ces cartes démesurées ne donnèrent plus satisfaction, et les collèges de cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait point par point avec lui. Donc un moment où le souci de l'exactitude, Jean-Claude Miner et Benilivier aimaient bien cette expression, disaient qu'on s'est tellement éloigné de la vérité qu'on cherche l'exactitude. Or l'exactitude n'est pas la vérité. Et on passe son temps à essayer avec cette prolifération du langage, à parler du réel, et comme on s'en approche absolument pas, on rajoute des mots et des mots et des mots et des mots pour arriver à recouvrir ce réel qui nous échappe, et ce qui fait que les mots vont finir par occulter le réel. Et la suite, effectivement, de ça, c'est que donc la carte de l'Empire recouvrait l'Empire tout entier. Moins portée sur l'étude de la cartographie, les générations suivantes comprirent que cette carte dilatée était inutile, et non sans inquiéter, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers, et donc la carte va se dilacérer avec le temps, et dans la métaphore de Borges, c'est le langage qui devient une espèce de rémanence d'un souci perdu, d'un rêve perdu de précision. Donc ça, c'est l'écueil du langage de la communication, c'est l'écueil du langage qui prétend désigner le réel dans toute son exactitude, sans chercher sa vérité. Alors, la question qui peut se poser, c'est... bon, c'est intéressant, Walter Benjamin, mais on est dans un bêta midrash, est-ce que ça, cette lecture-là, elle existe, en fait, cette lecture? Quand on lit le texte de la Torah, on peut penser qu'elle est assez légitime, il n'y a pas vraiment de décalage entre sa lecture et la lecture du texte de Bereshit. Je me suis demandé, étant donné qu'il n'était pas lui-même hébraïsant et qu'on n'a pas trace de longues années passées à étudier, d'où est-ce qu'il peut bien tirer cette lecture de Bereshit? Alors il y a dans des textes de son grand ami Scholem un certain nombre de choses qui sont au moins pratiquement des citations. Il y a un texte magnifique qui est dans le livre qui s'appelle « Le nom et les symboles de Dieu » et où il parle en particulier de ce texte de Scholem qui s'appelle « Nom de Dieu » ou « Théorie du langage ». Vous voyez, on est encore dans le sujet. Et en fait, ce que Scholem, en citant pas mal d'auteurs, comme toujours kabbalistiques, donc pas forcément ce que je comprends, il énonce que le langage divin est un absolu, qui prend des significations dans les mondes où il se manifeste, et que le langage humain tirerait sa dignité de ce langage absolu, même si aujourd'hui, en apparence, il est tourné vers la communication. Donc on retrouve cette dualité, et un peu plus loin, il va dire, c'est seulement avec la confusion des langues qu'est née une hybridité magique. Et il dit, mais je pense que c'est très intéressant, que ça apparaît à partir du moment, ce qu'on dit exactement dans Babel, le moment où l'homme voulut se faire un nom. Jusqu'à présent, l'homme, il nommait les autres espèces. Il y a un moment où il veut faire son propre nom, où il veut lui-même se donner son nom. Il ne veut plus que ce soit Dieu qui lui donne le nom, c'est lui-même qui se donne. Et c'est de là, probablement, que naissent un certain nombre de choses. Mais ce texte de Scholem, il a été écrit très longtemps après, donc je doute fort qu'il ait pu le lire au moment où il a écrit ce texte en 1916. Par contre, en regardant la correspondance de Benjamin, on s'aperçoit qu'il avait plusieurs fois fait référence à Shimshon Raphaël Hirsch. Et donc du coup j'ai été regarder, il cite pas du tout ce texte, mais j'ai été regarder le commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch sur l'utilisation du langage pour nommer les espèces. Et donc je relis le texte hébreu, Vayetzer Hashem Elokim Mina Adama Kol Hayat Asadeh, Vet Kol Rof Hashamayim, Vayave El Adam Yerot, Ma Yekarlo, Vechol Asher Yekralo, Adam, Nefesh Chaya Ushemo. Donc Dieu amène toutes les espèces des champs et tous les oiseaux de l'air du monde ensemble, tous ensemble, et il les fait venir vers l'homme afin qu'il puisse les voir, pour voir comment il va les appeler, et le nom qu'il va leur donner pour lui. J'insiste pour lui, comme Nefesh Raya, comme espèce, comme être vivant, c'était son nom. Et vous savez que la suite, c'est qu'il donne le nom à tout le monde et puis il ne trouve pas d'aide pour lui. Et donc il s'aperçoit qu'il lui faut une femme, enfin qu'il lui manque quelqu'un. Et ça, c'est pas encore, même si c'est en fait pas du tout éloigné du thème, mais on n'aura pas le temps. Alors j'ai regardé le commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch, et celui-là, on en a parlé avec Eura, il n'est pas pollué par la béatitude allemande de la fin du 19e siècle, donc c'est vraiment un commentaire qui est vraiment très près du texte. Alors il dit la chose suivante, le Nefesh Raya qui est utilisé dans ce texte-là, il est juxtaposé à l'homme. C'est en tant que Nefesh Raya que l'homme est capable de donner des noms aux animaux. L'homme donne des noms aux choses, en l'occurrence aux animaux, mais pas comme Dieu qui voit les choses comme elles sont vraiment. On entend presque Kant avec la chose en soi, et peut-être qu'on la voit, mais c'est pas, donc, j'espère que c'est pas ça. Mais plutôt comme Nefesh Raya de façon subjective. En fait, c'est le Nefesh Raya de l'homme qui vient de son pouvoir de parole, puisque c'est la traduction, c'est la conséquence de la création comme être de parole. C'est le Nefesh Raya de l'homme qui lui permet de donner un nom aux autres Nefashot Rayot, aux autres espèces. C'est juxtaposé ensemble. C'est donc dans sa subjectivité, de son point de vue de Nefesh, comme individu vivant, qui reçoit une impression acceptable des choses autour de lui. Donc il y a une perception de l'homme qui n'est pas une perception intellectuelle. Le langage que l'homme va employer à ce moment-là, c'est un langage qui vient du corps, c'est un langage d'être vivant qui comprend un autre être vivant. Alors ça peut faire penser à quelque chose qui est dans les Tehillim, c'est « mi bessari et chézé loka », donc à partir de ma chair je suis capable de percevoir la divinité. Il n'est pas du tout certain, et je pense qu'au niveau dans le judaïsme il est absolument improbable que ce soit l'intellect qui soit la meilleure façon de percevoir le monde, et on a l'impression que le Nefesh Raya, c'est l'être où se fusionnent l'intellect et le physique qui va permettre d'avoir une description et l'utilisation du langage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a Asher Ikra Lo à Adam Nefesh Raya, il lui a donné pour lui un nom, et les noms sont nommés par rapport à la relation qu'ils ont à l'homme. Non seulement il les comprend de son intériorité d'être vivant, mais il les comprend en relation avec lui. Il le donne un nom. Donc ce n'est pas les choses dans leur existence réelle que l'homme va voir, dans leur existence absolue, mais comme lui peut les percevoir, puisque l'existence réelle, on peut admettre que seul Dieu pourrait la comprendre. Alors ça fait courir un très gros risque, c'est le scepticisme, c'est de se dire tout est relatif, chacun voit les choses comme il les comprend, on entend ça tout le temps, chacun sa façon de voir la vérité, chacun sa perception des choses, etc. Donc le langage de la communication typiquement. Et le Passouk nous dit, ben non, pas du tout, puisque ce qu'il a donné, c'est Ushemo, c'était vraiment ce nom-là. Donc l'homme, il avait accès, par son effet Shraya, à une partie de la réalité. Il y a une partie qui lui est rendue accessible, qui vient directement du savoir divin, de la connaissance divine, puisque nous, on est passé dans le savoir. Donc l'homme a un accès à une parcelle de cette réalité, qui devient de ce fait d'abord un peu d'absolu, mais surtout commune à tous les hommes, puisqu'on peut parler de la même chose. Alors que si on parlait uniquement de sa propre subjectivité, on ne serait absolument pas certain de parler de la même chose. Donc il y a un besoin de définir les choses à partir de soi et à partir d'un mode relationnel. Et si on essaye de réfléchir à ça, et d'ailleurs dans le texte de Hirsch, il y fait allusion, on peut imaginer que la possibilité de comprendre un autre être humain, et donc de comprendre sa vraie nature, et donc de lui donner son nom, d'ailleurs par parenthèse, une des seules capacités que Walter Benjamin continue à donner à l'homme, c'est de donner un nom, puisqu'il dit que les hommes continuent à donner un nom à leurs enfants, et que le nom qu'ils donnent à leurs enfants, ça les définit. Donc c'est quelque chose qui a persisté de cette capacité de nomination. Un enfant, c'est quelqu'un qu'on croit comprendre particulièrement bien, et là on a l'impression que donner des noms aux animaux, c'est les comprendre tout particulièrement. Alors, ça voudrait dire que le langage passerait par une intériorisation d'une expérience qui serait l'expérience de soi et l'expérience de l'autre. Il y a un texte d'un grand sceptique sur le langage, Wittgenstein, dont on sait qu'à la fin du traité Tractatus Logico-Philosophicus, il disait tout ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire, donc pas loin non plus de notre Gemara. Il élabore dans les investigations philosophiques une autre possibilité, c'est de parler d'abord des jeux de langage. Et il a une expression qui est très importante, je crois, c'est de dire que les mots n'ont de signification que dans le flux de la vie. Les mots ne trouvent un sens que parce qu'il y a une vie qui va avec ces mots-là. Donc on ne pourrait pas écrire un livre s'il n'y avait pas une vie qui accompagnait ce livre et s'il n'y avait pas une vie qui était en même temps l'incarnation de ce livre. Et l'exemple qu'il en donne, qui est repris par donc un de ses interprètes les plus importants, un mathématicien, Kripke après, c'est l'exemple de la douleur. Si on en veut employer le mot « douleur », ça fait presque instantanément référence pour chacun d'entre nous à un sentiment vécu, quelque chose, une sensation qu'on a déjà ressentie. Et la douleur de l'autre, on a du mal à l'imaginer autrement qu'en passant par sa propre douleur. Et ça devrait entraîner une forme d'empathie, c'est pas non plus le sujet de maintenant, mais la définition du mot douleur est extrêmement difficile à construire de façon abstraite. Et la plupart des mots, donc il prend cet exemple parce que je crois qu'il est difficile de le contester, mais c'est une des façons de dire qu'on a un besoin de construire un sens à partir d'une expérience. Peut-être que c'est un des rôles de la Torah, sans doute un des rôles les plus importants, c'est qu'il ne peut pas y avoir vraiment de sens construit sans le vivre. Alors, donc peut-être que la lecture de Benjamin Binyamin part de là. Vous voyez qu'on s'éloigne déjà quand même un peu avec Hirsch, mais il y a pas mal de termes qui sont pratiquement identiques, donc il en est sans doute au moins en partie parti. Si on regarde les choses, on s'aperçoit que le texte n'est pas tout à fait dans cet ordre-là. Si on regarde le récit de Bereshit, on s'aperçoit qu'il y a un moment où la parole divine ne coïncide pas avec la chose créée. Donc c'est le passage célèbre où Hachem demande à la terre de faire pousser Aetz Peri, Rosé Peri, un arbre fruit qui donne des fruits. Et on nous dit Vayichen, et ce fut ainsi. Et Vatotse Aretz, donc elle fait, il y a d'une part les végétaux, où il y a déjà une déviation par rapport à ce qui est demandé, mais que tout le monde trouve très bien. Et la terre fait sortir Retz Rosé Peri, un arbre qui porte des fruits, mais l'arbre lui-même n'est plus un fruit. Et paradoxalement, Dieu trouve ça très bien. Tov Meod, c'est très bien. Donc il y a un moment où il parle. On a l'habitude de dire, ou Amar Vayehi, il a parlé. Et la chose existe déjà. Donc il y avait une immédiateté entre la parole et l'action. Et là, entre sa parole et ce qui sort, ce qui est créé, c'est pas la même chose. Il n'y a pas un arbre fruit, il y a un arbre qui donne des fruits. Alors, je fais une digression par cela. D'abord parce que j'ai eu l'occasion de travailler ça en bien ou en mal, mais je l'ai travaillé. Et d'autre part parce que je pense que ça va nous ramener à un autre sujet. Donc, cette parole absolue de Dieu qui crée les choses n'existe pas vraiment. Et on va voir que ce décalage entre la parole et le réel, on peut l'interpréter d'une façon qui est de dire que la matière résiste au créé. C'est difficile à comprendre comment une matière créée par Dieu pourrait résister à celui qui la crée. Et beaucoup de mépharchim refusent cette interprétation. Il y a une autre façon de dire les choses, c'est que la création, c'est un processus dynamique. On dit même qu'il y aurait peut-être qu'un mot ou voire qu'un silence qui aurait précédé le tout, et qu'en réalité, le monde n'est toujours pas fini, et que le Retz Peri, il est à venir, que là, il fallait faire sortir un arbre fruit, et que ce Retz, cet arbre fruit, il est toujours à faire émerger. Il y a une lecture qui l'autorise, avec cet arc, qu'ont les Chachamim, de nier complètement la linéarité du discours et d'inverser l'ordre de l'histoire. C'est en particulier le Rahaim, mais il n'est pas le seul, le Meshach Chorma, plusieurs reprennent ça, de dire, et d'ailleurs c'est le pshat pratiquement du texte dans le deuxième chapitre, c'est que tout ce qui avait été créé, toutes les espèces végétales, étaient sous la surface de la terre, parce que l'homme n'était pas encore là pour cultiver la terre, et Rashi dit qu'en l'occurrence c'était l'Ovda, donc c'était en l'occurrence pour prier. On dit qu'il a fallu que l'homme prie, qu'il comprenne qu'il manquait quelque chose à la terre, qui était aux cieux, Sham Maïm, qui était l'eau, puisque avec la séparation de la terre, des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, et puis ensuite avec la séparation de du sec, de l'humide, ce qui va manquer à la terre, ce que l'homme réalise très bien, c'est qu'il lui manque Sham Maïm, l'eau d'en haut, donc il prie pour que l'eau tombe, pour que la pluie tombe. Et c'est quand la pluie tombe que les espèces sortent. Donc il y a un rôle de l'homme, Alors évidemment, on n'est pas dans la science là, on est dans le récit tel qu'il nous apprend quelque chose. C'est donc à partir de là, c'est l'homme en fait qui a une influence décisive sur la création. Donc les 6 jours dont on a entendu parler jusque-là, on a l'impression qu'une partie c'était une virtualité, et que cette virtualité elle avait besoin d'une prière, elle avait besoin d'une parole. On évoquait hier le terme de Oran comme la fonction de l'homme, la parole de l'homme, une de ses fonctionnalités c'est la prière. C'est probablement la fonctionnalité par excellence. Et cette fonctionnalité-là, elle appelle la pluie pour faire pousser quelque chose de la terre. Et donc le Roi Chaim propose que c'est dans la prière de l'homme qu'est né le décalage, qui fait, enfin, il le propose tout au moins, il l'implique, qui fait que c'est pas tout à fait leur être péri qui est sorti, mais leur être sépéri, c'est-à-dire qu'il y a dans le discours de l'homme quelque chose qui va induire ce décalage entre ce qu'il construit et le résultat de la construction entre l'arbre et son fruit. Alors ça donne à la fois un sentiment de frustration, et on sait que par exemple le texte de Rashi dit que donc 3 sont entrés en jugement et 4 ont été condamnés. On dit qu'après la faute ont été jugés l'homme, la femme et le serpent, enfin, c'est pas dans l'ordre mais ça n'a pas d'importance, et que la terre a été jugée avec eux parce que la terre avait désobéi et avait produit cet arbre qui donne un fruit et non pas un arbre-fruit. Alors pourquoi elle n'a pas été punie tout de suite, au moment du Bereshit tout de suite? Pourquoi il faut attendre que ce soit l'homme qui faute pour qu'on condamne la terre avec? Alors plusieurs commentateurs disent oui, parce que c'est sa mère, donc elle est condamnée avec son fils, elle a voulu le protéger, elle a même créé les conditions qui ont fait qu'il a pu fauter. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé au moment de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance est quelque chose qui serait une conséquence de ce décalage dans la création de l'arbre avec un fruit qui est porté par l'homme. Alors sans entrer trop dans le détail, peut-être un jour ce sera intéressant, sans entrer dans le détail, mais ce qui est perturbant, c'est de se dire qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné, que ça n'a pas de conséquences immédiates et que c'est seulement après. Mais ça, c'est perturbant si on a une conception de l'histoire où il y a un avant et un après. Mais si on imagine ce que fait le Rachaïm, que font beaucoup de Mefarshim, que l'après éclaire l'avant, et que ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé au moment du comportement de l'homme, va éclairer l'avant, si on imagine encore plus que c'est la prière de l'homme qui va déterminer ce qui était en prémisse sous la terre avant son émergence, on entend le rôle de la parole, mais on entend surtout un métier pour l'homme. Quel est son métier? Son métier, et Rashi le dit très bien, et bon, beaucoup de ses lectures sont aussi inspirées du commentaire du Maharal, que chaque création, chaque jour de la création, il y avait un en haut et un en bas. Il y avait quelque chose pour la terre, il y avait quelque chose pour le ciel, quelque chose pour la terre, quelque chose pour le ciel. Et la création de l'homme, c'est une situation où il n'y a pas cette parité, où il y aurait eu, s'il n'y avait pas eu l'âme venant de Dieu qui rentrait dans le corps de l'homme, puisqu'on sait qu'il a pris Rafar Mina Adama, donc il vient de la terre, de la poussière de la terre, Vaipar Veapav Nishpatraim, donc il lui a insufflé un souffle de vie. Et Rashi dit, il était obligé de faire ça, de réunir ce qui venait d'en haut et ce qui venait d'en bas, parce que sinon il y aurait eu la guerre, il y aurait eu de la kina, il y aurait eu de la jalousie, il y aurait eu de la guerre dans le monde créé, il y aurait eu entre les cieux et la terre une guerre. Et donc le rôle de l'homme, qui est l'unité entre le matériel et l'immatériel, c'est de créer cette harmonie, ou d'empêcher tout au moins cette disharmonie entre la terre et le ciel. Donc il y a un métier très particulier de l'homme, c'est celui-là. Et encore une fois, Onkelos dit, c'est le langage. C'est-à-dire que c'est la capacité de parler, la capacité de nommer qu'il va utiliser. Donc en fait, d'une certaine façon, ce qu'on pourrait concevoir comme une abstraction, mais dont on vient de voir plusieurs fois que ça n'avait de sens que dans la vie. Donc en réalité, ce langage, il est complètement imprégné par le fait d'être dans un être vivant. Ce n'est pas le langage désincarné, si on peut parler comme ça, du logos, mais ça serait un langage vécu à l'intérieur de ça. Donc cette fonction de l'homme, ça serait de produire cette unité. Tant que cette unité n'est pas produite, et en fait en séparant l'arbre du fruit, il y a une situation où ce qui est un des thèmes généraux du créé, c'est qu'il y a celui qui donne et celui qui reçoit. L'arbre donne et le fruit reçoit. Le ciel donne et la terre reçoit. Il y a cette espèce de dualité permanente entre l'un et l'autre, mais normalement ça se fait dans l'immédiateté. Celui qui donne et celui qui reçoit, en fait, sont ensemble. Il n'y a pas une hiérarchie entre les deux, il y a une continuité entre les deux. La continuité entre l'arbre et le fruit, c'est qu'il n'y a pas de différence, l'arbre-fruit, en fait, parce que tout est à tout moment présent dans l'arbre et dans le fruit. Donc le temps, il existe à l'état granulaire, mais c'est une unité à tout instant. La faute, c'est par les deux. Et bon, alors là, on a toute une série de mefarshim qui très clairement disent que c'est à partir de là qu'on va avoir une séparation des semailles et des moissons, qu'on va avoir une séparation de l'arbre et du fruit, qu'on va avoir des arbres fruitiers et des arbres non fruitiers, qu'on va avoir la possibilité de semer et qu'il ne se passe rien pendant des mois, puisqu'on dit même dans la Gemara que c'est la définition de la Emouna, pas de la Oumanout, mais de la Emouna. La Emouna, c'est le laboureur qui sème et qui attend. Et peut-être ça va pourrir, peut-être qu'il ne se passera rien, et puis arrive quelque chose. Et sur ce texte, y a un moment où on nous dit qu'il y a peut-être un, on va dire un tikkun, parce que ce n'est pas mon vocabulaire, mais il y a peut-être une réparation possible de ça, ou tout au moins il y a peut-être un moment où tout n'est pas perdu là-dedans. Ce texte, il est dans Ravoutner, en fait, dans Parat Yitzhak, et c'est Ravitar qui me l'avait montré quand je m'interrogeais sur cette histoire de la faute et du décalage dans le créé. Et ce texte de Ravoutner, il est à propos d'une expression de la Gemara qui s'appelle Beïdna, qu'on retrouve plusieurs fois, c'est au moment où, c'est-à-dire quelque chose traverse un espace, ça passe dans une cour, par exemple on envoie un objet, il passe du Reshout Ayahid, il va passer dans le Reshout Arabim pour atterrir dans un autre Reshout, à quel moment il y a une transgression, est-ce que c'est au moment où ça atterrit ou est-ce que c'est au moment où c'est dans le trajet, et on le retrouve pas mal de fois dans le texte. Et en fait, dans le Parat Yitzhak, sur cette histoire de la continuité du trajet et du but, du moyen et de la fin, qui est un problème apparemment important du droit talmudique, cette espèce de coïncidence, en fait, cette espèce d'explication par la fin de ce qui s'est passé avant, Ravoutner la rattache à la faute de Adam Harishon. Il dit que c'est la faute de la terre d'avoir séparé le moyen et la fin, d'avoir coupé celui qui donne de celui qui reçoit. Et donc il décrit ça comme dans ces trois lignes, dans Ravoutner, après il faut faire avec, hein, il faut essayer de comprendre, mais c'est en attendant la même chose, c'est-à-dire que le fait qu'on soit obligé de se poser toujours les questions en termes de la fin et des moyens, le trajet, où est-ce qu'il mène, est-ce que le but compte plus que le trajet, est-ce qu'il vaut mieux se perdre en route, etc., toutes ces questions qu'on peut se poser dans la vie, sont posées en fait à partir de cette histoire du fruit et de l'arbre, et de l'arbre qui n'est pas un fruit lui-même. Mais ce que dit le Parat Yitzhak, c'est que cette discontinuité, qui est en fait celle de l'impatience, puisqu'on attend quelque chose qui n'est pas encore là, elle a un endroit où elle existe encore, la continuité, et c'est dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, et on le dit d'ailleurs quand on fait les siyoum à la fin de chaque lecture de la Gemara, la pensée est une action. C'est le seul domaine où la pensée est une action par elle-même. Le fait d'étudier, qui n'est normalement qu'une pensée, voire qu'un langage, puisqu'on parle en étudiant, c'est une action en même temps. Il y a une coïncidence à un seul moment, et là, on le sait très bien, puisque c'est Afarba avec Kuloba, on sait très bien que le simple fait d'étudier, même s'il n'y a pas de résultat, même s'il n'y a pas de conséquences pratiques, en soi, ça porte un fruit. L'étude, c'est-à-dire le trajet, est en lui-même, le Afarba avec Kuloba, je crois, le dit bien, c'est-à-dire que dans le creusement, c'est une des explications de creuse dedans et tout est dedans, c'est pas que tout est dedans parce qu'il y a toutes les connaissances, c'est possible, mais c'est que c'est dans le creusement qu'il y a tout. Le fait de creuser, en soi, c'est un résultat. Donc ça veut dire que dans le moment de la Torah, le moment de l'étude, c'est un moment où tout coïncide, le début et la fin, le trajet et son résultat. La fin justifie vraiment les moyens, puisque les moyens sont eux-mêmes une fin. Et ça, le Ravoutner dit que ça préfigure, d'une part, les temps messianiques, mais ça préfigure quelque chose qui est décrit parfaitement dans la paracha qu'on a lu dans Béar la semaine dernière, qui est le moment qu'on n'a jamais vécu de la Shemitah idéale. Où il y a marqué, je cite de mémoire, mais Retzatzadeh iten pirio berito, donc l'arbre des champs donnera son fruit au bon moment. Les semailles et les moissons vont coïncider. On n'aura pas cette attente du laboureur qui sème et qui ne sait pas ce qui va se passer. Tout va coïncider. Donc il y a un moment où on voit le résultat de ses propres actes, ce qui veut dire que l'acte lui-même est son propre fruit. L'acte est lui-même son propre résultat. Mais ça suppose un rôle que l'homme doit jouer. Et que dans la trajectoire que définit en fait le décalage d'espace créé par la faute initiale et peut-être même parce que la Terre elle-même avait fait, il y a un rôle, un travail de l'homme. Et ce travail de l'homme, c'est de réunir fin et moyen. On voit, pour rester dans le sujet qu'on évoque aujourd'hui, que ce travail il passe par la prière, puisque c'est peut-être une imperfection de la prière qui aurait pu induire cela. Mais il passe aussi par l'étude, puisqu'il y a un endroit, en fait, on a cette chance, Chayer Olam Natar Betochenu, cette vie éternelle qui est plantée en nous, c'est qu'on balade avec nous la solution au problème de toute l'existence. On balade avec nous ce problème de l'impatience, on a la solution à l'impatience, c'est que dans l'exercice de la patience qui est l'étude de la Torah, on a en même temps la coïncidence entre soi et ce qu'on fait, entre ce qu'on lit et ce qu'on est, et entre ce qu'on veut produire et ce qui est produit. Donc cette espèce de rappel continu que la Torah peut nous donner tout au cours du temps de ce qui est possible. Alors ça, c'est une espèce de persistance, une persistance où on va donc passer de cette terreur qu'on a de l'absence d'immédiateté, de ce vide, puisqu'en fait, un instant qu'il n'y a pas d'instant suivant des certains, il y a toujours la possibilité de la mort au milieu, il y a toujours la possibilité que ce qui devait arriver n'arrive pas, ce qui est attendu ne se produise pas. Mais ça, c'est un problème qui peut se poser uniquement dans Olam Hazeh, tel qu'on va le définir dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Gemara. Donc j'ai sauté tout à l'heure, mais je vais me rapprocher, le Maharal, qui lit ce texte de la Gemara, tout petit Maharal, très court, que le Rav m'a montré, et qui reprend le texte de la Gemara qu'on a vu tout à l'heure. Ma'u manuto shel adam, yassim atmo keilem, ou qu'il se fasse silencieux. Alors, de ce que dit le Maharal, c'est Ra'u sheyi adam, roser atmo ilem, il est donc approprié, que l'homme se fasse lui-même silencieux. Ve'ezehu umanuto sheraou lo mitzad sheu adam. Qu'est-ce que c'est ce métier qui lui est approprié du fait qu'il est un homme? Donc c'est parce que c'est un homme que le silence lui est approprié. Qui kol geshem ou bekoar velo beporal, car tout corps, tout être physique, est en potentiel et non en réel. Alors ça, c'est un thème très général du Maharal de Prague, c'est que le but entier de l'existence, de la vie, c'est de faire passer le potentiel au réel. C'est-à-dire que tout est en potentiel, et ce qui va compter, c'est ce qui va passer en réel. Mais on est dans le monde du potentiel. Lefichar, Amar, chez Umanuto Barolamazé, chez Ugashmi, donc son métier dans ce monde, qui est donc un monde de corps, un monde physique, chez Yek et Moïlem, qui soit comme un silencieux. Aval Barolamaba, mais dans le monde futur, ou Béporal, où là il est en réel. Donc en fait, on a l'impression que le monde futur, c'est le monde potentiel, et le monde actuel, c'est le monde réel. Ben, c'est exactement l'inverse pour le Maharal. Donc, dans ce monde-ci, il faut qu'il se considère comme un potentiel. Et ce qui va le mieux au potentiel qui ne s'est pas réalisé, c'est de se taire. Quelqu'un qui va dire, je peux faire ça, et je peux faire ça, et je peux faire ça. Comme ce qui compte, c'est l'action, il vaut mieux se taire que de parler de choses qu'on n'est pas capable de faire. Le seul moment où on saura ce qu'on a vraiment fait de sa vie, c'est après. Donc après, il continue. Yachol a fait dibre Torah. Est-ce que c'est seulement pour les paroles de la Torah? Est-ce que c'est aussi pour les paroles de la Torah? Talmud Lomar, Tzedek Tedaverun. Donc tu parleras dans la justice. Alors donc c'est très important, cette passage du Maharal. Ki mitzad asechel, ou beporal, veino bekoar. Du côté de l'esprit, du côté de la réflexion, l'homme, il est du côté de l'action et pas du côté du potentiel. Il est du côté du réel et pas du côté du potentiel. Exactement ce qu'on vient de dire à propos de Rav Boutner, ce qu'on vient de dire d'une manière générale, c'est que dans la pensée, dans l'étude, dans la Torah, on est dans l'action. Alors que c'est le sechel qui fonctionne, c'est la tête qui fonctionne dans l'étude de la Torah, on est dans le domaine du poil. C'est seulement au niveau de son corps qu'il est encore en potentiel, mais au niveau de son sérel, qui est ce qui va faire vivre dans la Torah, il va se retrouver là-dedans. Alors si on imagine quand même que le langage, c'est quelque chose de physique, puisqu'on fait parler sa parole, en fait on fait fonctionner son corps au service du langage, c'est une façon physique d'être dans cet état d'esprit. Bon, après il va passer sur la dernière partie, qui est de savoir s'il faut s'en glorifier ou pas, mais donc il y a cette idée importante pour le Maharal, qu'il y a une coïncidence dans ce monde-ci, entre le potentiel et le réel, et que cette coïncidence, elle se trouve dans l'étude de la Torah. Donc on avait vu que cette coïncidence pour Rav Boutner, elle se trouve en fait aussi dans l'étude de la Torah et qu'on la porte avec nous et que c'est notre façon à nous de raccrocher le potentiel et le réel, de se rappeler tout plus exactement que nous ne sommes pas dans le réel, que nous sommes dans un potentiel. Et donc c'est à partir de ça que se pose la question. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire que la lecture des lettres, l'utilisation du langage, trouvant sa légitimité dans la Torah, et si on reprend, même si on n'en a pas trouvé la source, « Védibarta abam » et « tu parleras dans elle », c'est-à-dire qu'on nous a donné un vocabulaire, on nous a donné une grammaire de la parole, et que cette grammaire de la parole, c'est en même temps une grammaire du silence, parce que c'est nous dire, votre construction de vos phrases, elle doit être méritée, chaque mot doit se mériter, et ce qui va lui donner une légitimité, c'est se raccrocher à ce premier langage de Binyamin, ou à ce premier langage qui est le texte qui a créé le monde, puisqu'on sait que c'est en regardant le texte que Dieu a créé le monde, et c'est donc selon le Midrash, et c'est ce texte-là qui donne à la parole sa vérité, son sfat emet, ce langage de vérité. Donc à partir de ça, les signes de la Torah sont des signes qui sont porteurs d'un sens. Donc on sait que hot, ça veut dire aussi un signe, c'est un mot, c'est une lettre. Les otiot de la Torah sont à la fois des lettres et sont des signes, sont des indicateurs, comme si on avait des balises sur le chemin où aller, où marcher. J'ai écouté là, le chiot de la semaine dernière, c'est qu'à partir de la Torah de Moshe, ça ouvrait des espaces, ça ouvrait des balises qui permettaient à Rabbi Akiva et à d'autres d'élaborer dans leur vie à eux, même à partir de leur mort, un sens à ces mots que Moshe ne pouvait pas comprendre parce que ce n'était pas sa vie à lui, c'était son. Il fallait ce déploiement des êtres humains les uns après les autres pour reprendre ces mêmes lettres et donc reprendre dans le silence de ces lettres, puisque ces lettres n'étaient que la parole que Moshe a pu lui dire et comprendre, et qu'autour de ça, il y avait tous ces silences qui donnent l'espace où peuvent parler les générations suivantes quand elles vont se rattacher à la Torah et exprimer quelque chose. Et ça m'a amené à essayer de regarder pourquoi ces lettres, elles pouvaient nous permettre d'entendre quelque chose au-delà de ce qu'elles ont l'air de porter. Je rappelle que ce contre quoi c'est un sujet Benjamin dans ce texte, c'est l'utilisation de la parole comme un langage de communication, comme s'il y avait quelque chose qui était apporté par le langage, alors que c'est le langage qui est lui-même en soi porteur de quelque chose. Et je crois que ça ne s'éloigne pas énormément de ce qu'on pouvait dire. Alors il y a un texte que j'ai pas eu le temps de retrouver, mais ça vient juste de Yerushalmi, qui est un commentaire sur le moment où les lettres de la Torah ont été écrites. Et les lettres de la Torah, c'est dans Shemot. Je vais lire le pasouk, tout le monde le connaît, parce qu'il y a eu plein d'interprétations de ce pasouk. Et là, c'est une interprétation un peu sollicitatrice, donc un petit peu capillotractée, comme on dirait aussi, mais qui, je pense, se lit. C'est un peu se lire, en attendant. Donc, Moshe est descendu de la montagne. Ushne luchot aredut beyado, luchot ketuvim mishne revrehem, mise ou mise em ketuvim. Donc, il est descendu avec les tables dans sa main, dans ses bras, les tables du témoignage dans sa main. L'Uchot Ketuvim, elles étaient écrites, Mishner Evrehem, des deux côtés, des deux berges, on dirait, Mise ou Mise, M. Ketuvim, elles étaient écrites de part en part. Donc on sait qu'il y a plein de discussions sur du coup quelles étaient les lettres, quelle était l'écriture de la Torah, est-ce que c'est l'écriture ancienne, l'écriture nouvelle, tout ça, bon, très intéressant, mais il y a quelque chose que ça indique, c'est que les lettres de la Torah, elles traversaient entièrement la page, elles traversaient les tables, et on voyait à travers. On voyait à travers, mais on voyait aussi tous ceux qui regardaient, quel que soit l'angle, ça c'est dit dans le Mefarshim, quel que soit l'angle de lecture, tout le monde voyait la même chose. C'est-à-dire que tout le monde était capable, à travers les lettres de la Torah, de trouver un langage commun qui était sculpté dans les lettres, à travers ça. Et j'ai entendu une fois, c'est David Luzon, qui est enseignant à Strasbourg, qui je crois avait étudié ça avec Benny Lévy, ils ont fait quelque chose qui est un exercice intéressant, un peu éthique. Ils ont pris Misé dans la Torah, ils ont regardé partout où on trouve Misé dans la Torah, ils ont essayé de savoir, chaque fois que c'était Misé dans la Torah, donc comme Rashi en fait, mais à propos de Misé, à quoi ça se rattache. Et il y a un endroit dans Bereshit où il y a un Misé qui est très, très étonnant, d'ailleurs qui est très interprété, C'est quand Joseph cherche ses frères, quand il est envoyé par son père à la rencontre de ses frères. Et donc, il ne sait pas où ils sont, il part de Chérin, donc c'est sur son essence aussi, de Chérin, tout ça, mais c'est pas le sujet du jour non plus. Et puis, il rencontre quelqu'un dans les champs, et il lui dit, « Vayomer et Achai, Anim de Vakesh, je cherche mes frères, Aginali, Efo, Em, Rorim, dis-moi où est-ce qu'ils sont, en train de paître leur troupeau. » Et « Vayomer Aish » et l'homme lui dit « Nasru Mizé » ils sont partis de Mizé. Et ensuite il lui dit « Kishamarti Omrim Nelecha Dotana » alors ce « Nasru Mizé » est complètement inutile parce que s'ils sont partis, on sait bien qu'ils sont partis d'ici, c'est-à-dire que forcément c'est évident, il n'y a pas de mot inutile, on le sait bien. Et bon, les commentaires nous disent en général, ben, il a voulu lui passer une information, c'est que ils sont partis d'ici, ça veut dire qu'ils en veulent. En fait, ils sont allés à Dotana, donc il n'y a pas d'explication sur Dotana, ce que ça veut dire, etc. En fait, il le met en garde, en gros, qu'il les a entendus discuter entre eux et qu'ils ne veulent pas du bien. Alors, Rashi, sur ce Nasru Mizé, trois lignes, trois mots, comme d'habitude avec Rashi. Ici, ou Ratzmam, quatre mots, Mina Arfa. Ils se sont éloignés de l'amour fraternel. Ils ont quitté la harfa, ils ont quitté l'amour fraternel. Le misé désigne quelque chose qui est l'amour fraternel, l'amour entre les frères. Et il y a une lecture possible de misé ou misé, Mishneh, Rebrehem, Anukutuvim, qui serait de se dire que le texte de les lettres comme elles sont écrites comme ça, que chacun peut lire, avec ce même misé, qu'on va retrouver après dans Bilam. Qui avec la Nes ne peut pas non plus avancer parce que la Nes elle voit misé ou misé, elle voit de part et d'autre, elle ne peut pas attaquer le peuple à propos duquel il y a écrit misé ou misé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment attaquer les Juifs tant qu'ils s'entendent bien entre eux, donc la preuve que c'est vrai. Et ce misé ou misé autorise à chacun de lire la même chose, quelle que soit sa perspective, quel que soit son point d'angle, avec une condition qui est la harva, qui est la possibilité de vivre ensemble. Il y a aussi quelque chose que ça rend possible, c'est que si on s'imagine placé de part et d'autre des tables de la loi, quand on va lire le texte, on va voir quand même de l'autre côté le visage de celui avec qui on est en train d'étudier. C'est-à-dire que le texte va sculpter une relation. Il va tisser un lien entre celui qui le lit et l'autre qui le lit en même temps. Chacun pourrait dire, chacun sa lecture. Non, en fait, le texte va déterminer un canal, va déterminer un espace étroit, mais un espace qui lui ressemble, dont la forme va caractériser la possibilité d'une relation. Mais pas d'une relation qui est seulement une relation d'homme à homme, donc une relation horizontale, comme on a l'habitude de les séparer, mais une relation qui passe par ce qui va donner au texte sa source, qui est la parole divine. Et cette parole divine, donc le langage de Dieu, c'est cet absolu, donc il nous reste une trace qui est le texte de la Torah, une trace très forte puisque c'est celle qui a été créatrice du monde, et cette parole absolue, elle vectorise la relation qu'on peut avoir avec les autres, et elle lui donne son authenticité. Donc le hot qui est à travers ça définit un espace, et cet espace, c'est en fait tout le reste doit être silence, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire doit passer par là. Tout ce qu'on peut dire quand on va se parler, quand on va essayer de définir sa vie, non pas en potentiel, mais en réel, tel que c'est défini dans l'espace de la Torah, c'est une définition qui va se faire par l'intermédiaire de ces lettres, par l'intermédiaire d'un langage qui a une fondation. Cette fondation, elle se trouve directement dans le récit de la création, dans le premier texte, dans le premier langage dont parle Walter Benjamin. Et donc à chaque fois qu'on emploie le langage, si on pense à ça, ça fait très peur. Parce que ça veut dire, est-ce qu'on a vraiment le droit d'employer, on n'est pas des filles et charim, peut-être romain, mais comme on dit dans la prière, c'est quand on dit ça, ça veut dire que c'est seulement la bouche des justes qui pourrait parler, qui pourrait proclamer, et Rambam s'insurge contre l'excès de la prière et l'hyperbole qu'il peut y avoir là-dedans, mais forcément ça va induire une grande modestie. Alors peut-être que la fin de la Gemara, quand elle nous dit, est-ce que le fait de parler dans la Torah, il peut se glorifier de ça? Non, non, attention, on t'a donné la Torah comme instrument du tzedek. Et je rappelle, on dit souvent que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de harfa entre les êtres s'il n'y a pas un tzedek qui préfigure ça. Donc on ne nous a donné ces mots, on ne nous a donné l'usage de ces mots que parce qu'ils vont définir une vérité qui est en fait simplement une vérité opérationnelle pour nous, qui est celle de la justice entre les hommes, fondée sur ces valeurs-là. Et fondée sur ces valeurs-là, elle autorise l'harfa. Quand l'harfa disparaît, la justice va disparaître d'elle. Mais ça veut dire que les mots ont un pouvoir en tant que tel, donc le respect de Walter Benjamin par rapport à l'emploi de ces mots, on peut le comprendre. Et je me suis permis, là aussi j'ai été autorisé par l'ouvrage, parce que je pense que c'est un texte qui vaut vraiment la peine d'être lu, parce qu'il est complètement explosif, de vous citer ce texte, et je terminerai là-dessus. Un texte de Gershom Scholem, qu'on trouve dans le livre qui s'appelle Le Prix Israël, et en fait un texte d'une lettre que Gershom Scholem avait écrite à Franz Rosenzweig dans les années 20. Il y avait à la fois une grande admiration pour Franz Rosenzweig, donc on n'est pas tout à fait sûr que Walter Benjamin ait vraiment lu tout Franz Rosenzweig, mais enfin bref, en attendant, il s'y réfère souvent. Mais il y avait une grande controverse, parce que comme chacun sait, Gershom Scholem, est parti en Israël, était sioniste très tôt, et Franz Rosenzweig croyait énormément à la diaspora, donc ils avaient des relations qui étaient extrêmement tendues pour des tas de raisons. Rosenzweig leur. Il y avait pas mal d'éléments de dispute, on va dire. Mais il y a un moment où Scholem, une fois en Israël, en Eretz Israël, éprouve le besoin d'écrire une lettre à Franz Rosenzweig. On n'est pas sûr qu'il l'ait reçue, parce que cette lettre elle a été retrouvée dans les papiers de Scholem, donc il n'est pas sûr qu'il l'ait reçue. Et cette lettre, c'est Stéphane Moses en fait, qui l'a retrouvée, qui l'a interprétée. Je ne vais pas vous la lire en entier, mais je pense que ça vaut la peine de. C'est pour dire à quel point le langage qu'on emploie. A un sens en lui-même et que c'est à manipuler comme les bombes avec beaucoup de précautions. Le texte de Scholem, il commence comme ça. Ce pays, donc c'est Eretz Israël, est pareil à un volcan où bouillonnerait le langage. On y parle de tout ce qui risque de nous conduire à l'échec, et plus que jamais des Arabes. Mais il existe un autre danger bien plus inquiétant que la nation arabe et qui est une conséquence nécessaire de l'entreprise sioniste. Qu'en est-il de l'actualisation de la langue hébraïque ? Cette langue sacrée dont on nourrit nos enfants ne constitue-t-elle pas un abîme qui ne manquera pas de s'ouvrir un jour? Les gens d'ici ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils croient avoir sécularisé la langue hébraïque, lui avoir ôté sa pointe apocalyptique. Mais ce n'est pas vrai. La sécularisation d'une langue n'est qu'une façon de parler, une expression toute faite. Il est impossible de vider leur charge des mots bourrés de sens, à moins d'y sacrifier la langue lui-même. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je continue simplement une partie. Le langage est non. C'est dans le nom qu'est enfouie la puissance du langage, c'est en lui qu'est scellé l'abîme qu'il renferme. Pour avoir invoqué quotidiennement les noms d'autrefois, il ne dépend plus de nous d'écarter les pouvoirs qu'il recèle. Une fois réveillés, ils se manifesteront au grand jour, car nous les avons invoqués avec une violence terrible. Les phrases des journalistes qui jouent avec les mots, feignant de croire ou de faire croire en Dieu, pensent que tout cela n'a pas d'importance, et pourtant dans cette langue avilie et spectrale, la force du sacré semble souvent nous parler. Et qui termine, lorsque viendra l'heure où la puissance enfouie du fond de la langue hébraïque se manifestera de nouveau, où le dit de la langue, son contenu reprendront forme, notre peuple se trouvera de nouveau confronté à cette tradition sacrée, signe même du choix à entreprendre. Alors il lui faudra se soumettre ou disparaître. Car au cœur de cette langue où nous ne cessons pas d'évoquer Dieu de mille façons, le faisant revenir ainsi en quelque sorte dans la réalité de notre vie, Dieu lui-même à son tour ne restera pas silencieux. C'est paradoxal parce que Scholem a la réputation d'être athée, mais bon. Mais cette inéluctable révolution du langage, où la voix, in majuscule, se fera entendre de nouveau, est le seul sujet dont on ne parle jamais dans ce pays. Car ceux qui croyaient avoir entrepris de ressusciter la langue hébraïque ne croyaient pas en la réalité du jugement auquel ils nous soumettent tous. Fasse le ciel que la légèreté avec laquelle nous avons été entraînés sur cette voie apocalyptique ne nous mène pas à notre propre perte. Il y a un pouvoir des mots, pouvoir tellement fort que ça peut faire peur, et que peut-être que c'est pour ça qu'on nous recommande le silence, quand on ne sait pas s'en servir. Si on ne sait pas se servir des mots de la Torah pour définir la justice, définir la relation qu'il peut y avoir, la harpa, peut-être qu'à ce moment-là c'est une bombe qui peut se retourner contre nous. Alors, je ne veux pas aucun lien avec l'actualité, je dis simplement que ce texte, il dit quelque chose de très important. Ça peut quand même donner l'impression, et ça sera vraiment ma conclusion, on a aussi parlé hier, qu'il n'y aurait que la langue hébraïque. Avec les autres, elle ne serait pas porteuse, et donc on peut lire par exemple dans le récit de Babel que les autres langues seraient simplement des langues d'usage, que dit le Méterminimum. Il y a cette discussion entre Rabbi Yehuda Halevi dans Kuzari et le Rambam, en fait, sur l'un qui pense que la chaîne à Kodesh, c'est la chaîne à Kodesh, et que les autres, donc c'est la langue sainte par excellence, et que les autres sont des langues dégradées qui ne peuvent pas porter la même chose. Et puis le Rambam, qu'on peut lire, je crois qu'on peut, on peut vraiment le dire comme ça, qui dit que non, c'est la langue qui porte la sainteté, c'est la langue qui nous permet de penser la sainteté, mais elle n'a de sainteté que parce qu'on l'emploie dans ce sens-là. C'est l'homme qui donne sa sainteté à la langue quand il va l'employer. Et en fait, comme on est entre les deux, c'est à nous de savoir ce qu'on fait avec la langue, c'est-à-dire de savoir qu'en attendant, soit elle est sainte en soi et on s'en sert n'importe comment et c'est grave, soit elle a ce potentiel de sainteté et ne pas le lui donner, c'est grave aussi. Mais à ce moment-là, qu'en est-il des autres langues ? Si on reprend l'idée qu'une des rédemptions possibles pour Walter Benjamin de la dégradation du langage, c'est le rôle du traducteur, et là c'est vraiment hier qu'on en discutant qui m'a orienté vers cette piste. Ce que dit Walter Benjamin, c'est que le traducteur, il ne va pas traduire mot à mot, il va chercher le sens qui est caché derrière la phrase et essayer de retraduire quelque chose qu'il entend derrière la phrase dans une autre langue. Donc il va chercher un espèce d'absolu de la langue, enfin d'un méta, une métalangue qui flotte au-dessus de la phrase qu'on est en train de lire pour aller chercher ce que ça veut bien vouloir dire pour ensuite le retraduire. Et on sait très bien que les meilleures traductions ne sont pas des traductions littérales. Toutes les discussions sur les traductions et les trahisons qui vont avec sont le fait d'avoir été cherché, qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir cherché à l'intérieur, des mots. On voit tout à l'heure à propos des Tehillim que si on prend la traduction du rabbinat, peut-être authentiquement légitime, on n'a pas silence dans la phrase des Tehillim, on n'a rien de ce qu'on a entendu dans tout ce texte. Donc ça voudrait dire que dans cette traduction, quelque chose s'est perdu. Et donc l'Agmara est obligée, elle, de traduire, de nous expliquer ce qu'il faut lire à travers ça. Sans la Torah Shebéal Peh, nous, on n'arrive pas à lire là-dedans. Mais on peut imaginer que toutes les langues aient une Torah Shebéal Peh, que toutes les langues soient parlées, et que toutes ces langues portent un sens. Et Laura me disait hier, si on a toujours l'image que chaque nation, elle a une médiation par un Elohim, qu'elle a, chaque nation a un ange qui lui correspond, qui est son génie propre. Donc chaque langue a son génie propre. Le rôle du traducteur, en allant chercher le génie propre de la langue pour le traduire dans le génie propre d'une autre langue, il se réfère à une forme de ce Elohim qui est réparti entre les nations, qui est une forme de l'absolu qui a donné naissance au langage. Alors, ça ne veut pas dire que rien de tout se vaut, puisque nous, on a peut-être cette qualité avec la langue hébraïque de ne pas avoir besoin de cette médiation par l'intermédiaire d'un Elohim pour accéder directement au texte. Mais ça incite quand même à se dire que finalement, ce que fait la langue, et on dit souvent à propos du blanc du Sefer Torah, elle ne fait que, le langage ne fait que sculpter un espace de silence, un espace blanc, et que c'est avec beaucoup de respect qu'on doit s'attaquer à ça, parce que chaque fois qu'on va déborder, ou chaque fois qu'il va en manquer quelque chose, on va travestir le sens des mots, et on va travestir ce que le silence peut apporter, qui sera la parole de ceux qui peuvent venir après nous, ou ceux qui peuvent venir en même temps que nous. Et le Gaon de Vilna, dans un texte qu'on avait avec le Rav sur Michelet, dit que c'est un texte de Michelet, aussi assez plat quand on dit comme ça, Bazadon de Yavokalon, et Tsenoim Chorma, donc ce sont les discrets qui portent la sagesse. C'est ce que dit le Michelet dans le proverbe. Et le Gaon dit que pourquoi ce sont les discrets qui portent la sagesse ? Parce que ceux qui se taisent, ils sont capables d'écouter ce que disent les autres. Et que l'élève qui sait se taire devant son maître, il va apprendre quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer par lui-même. Donc le silence, je ne vais pas élaborer sur tout ce texte, il est très intéressant sur ce que l'on parle du Gaon. Et en gros, cette espèce de discrétion dans l'utilisation du langage, peut-être que nous dit l'Agmara en nous disant de ne pas trop nous glorifier d'utilisation du langage de la Torah, c'est qu'il faut être capable d'entendre. Pour ça, il faut aller chercher au fond de son propre silence, une capacité d'entendre ce qui est chez nous, mais aussi ce qu'on peut faire émerger dans la parole du maître en l'occurrence. Donc finalement, toujours celui qui donne et celui qui reçoit. Et pour pouvoir recevoir, il faut être en réceptivité. Le silence, c'est un état de réceptivité. Mais ce n'est pas le silence du néant, c'est un silence qui est complètement habité, qui est complètement sculpté par une langue, en l'occurrence la langue de la Torah, qui nous donne cette possibilité d'écoute et finalement de nous dépasser. Merci. dans le donc la vieille langue française qu'il utilise en. Je pense que ça sert si on se rappelle que une langue, ça sert, ce qu'on a dit tout à l'heure, dans une vie. C'est-à-dire qu'il écrit son commentaire en même temps qu'il vit à un endroit et dans un contexte donné. Et qu'il éprouve le besoin, puisqu'il veut se faire comprendre. Lui, il n'a pas l'impression d'écrire un commentaire qu'on a depuis divinisé, qu'on a rendu un commentaire absolu. Lui, il écrit un commentaire pour qu'on comprenne la Torah. Et il utilise tout ce qui lui paraît utile, et en particulier il utilise l'expérience du quotidien, l'expérience des choses. Parce que les mots qu'il emploie, ce ne sont pas des mots particulièrement simples, la plupart sont des choses très, très concrètes, très terre à terre. Mais moi, ce que j'entends simplement là-dedans, c'est que toute dimension de la vie qui permet de comprendre la Torah devient légitime, si elle est porteuse d'un sens. Je ne sais pas ce qu'on pense là-bas. Mais... C'est jamais quand le mot est présent, quand le mot est compréhensible, il éprouve ce besoin. Pourquoi le Rambam a écrit la plupart de ses textes en arabe et pas en Lachon HaKodesh? Parce que peut-être que c'était pour lui sa façon de faire comprendre un certain nombre de concepts. C'est pas une Mishneh Torah, mais justement, qui est écrit en arabe. Hein. Mais on a l'impression qu'il faut parler la langue qu'on est capable de vivre, qu'on est capable d'exprimer. Mais bon, c'est une interprétation. Non, c'est très concret chez Rashi, c'est extrêmement concret. Et puis c'est mélangé au texte hébreu, puis c'est mélangé aussi dans la Torah. Donc mais c'est sans doute qu'il faut que les gens comprennent ce dont il est en train de parler, donc il utilise le vocabulaire qui est intelligible. Et peut-être qu'il y a des mots qui se sont perdus, qu'il est toujours à chercher ailleurs, qu'on n'a pas vu. Je comprends comme vous le dites, c'est-à-dire que c'est parce que une méfiance face au langage, c'est à l'utilisation du mot vulgaire, enfin, du langage vulgaire, c'est construit au cours du temps, qu'on aurait pu croire, on arrivera, qu'il vaut mieux ne pas parler du tout. Et on voit dans quelques avocats que toute ma vie j'ai vécu avec des femmes, et là j'ai vécu avec des femmes, et ce que j'ai trouvé de mieux, c'est le silence. Donc, on peut dire, comme vous le verrez, c'est que le silence, c'est ce qui nous permet d'entendre les femmes, etc. Mais on peut dire aussi que même dans ce que vous dites, les femmes, parfois il vaudrait mieux qu'il y ait du silence, j'en sais rien. Enfin, il y a peut-être cette terreur d'employer les mots à mauvais escient et de se dire si c'est tellement dangereux finalement d'employer à mauvais escient à propos de la Torah, ou si parler de la Torah avec des mots qui ne lui correspondent pas, c'est une forme de profanation du texte, mieux vaut ne rien faire. Et on lui dit maintenant pas du tout, parce que si vous faites ça, vous vous coupez du tzedek, vous vous coupez de l'essentiel. Parce que peut-être qu'on a perdu plein de choses, peut-être qu'on a perdu un statut, mais l'essentiel c'est quand même de maintenir la justice. Donc on vous autorise, on vous oblige même à utiliser la Torah pour la justice. C'est une dérogation. En fait, on nous dit, tant pis, vous la prenez comme vous voulez, même avec les mots français de Rashi, vous la prenez comme vous savez la prendre, parce que vous en avez besoin, Mais si on, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que ce n'est pas seulement un palliatif, c'est que ça reste un absolu. C'est-à-dire que se rattacher à la Torah, aujourd'hui, notre étude de la Torah, on peut quand même considérer, moi j'aimais bien, j'ai toujours pensé ça, c'est une expérience qu'on peut vivre dans le Beit HaMidrash, c'est qu'on a l'impression que tous les commentateurs sont assis autour de la table en train de discuter. On n'a pas l'impression quand on est là, même si on ne comprend presque rien, et qu'on est les mains, etc., sur les épaules, mais on a l'impression qu'ils ont tous accepté de s'ouvrir à nous, qu'ils sont tous autour de la table en train de discuter les uns avec les autres. On rentre dans la Gemara tous les jours, on a l'impression qu'on rentre dans une pièce, dans un film, et on est avec eux. Et on a le droit, tous les jours. On est dans cette éternité de l'instant qui est celle de l'étude. Ça, c'est certainement pas une dégradation. C'est-à-dire que peut-être qu'on nous a permis de le faire parce que sinon il n'y aurait même pas de tzedek, il n'y aurait plus rien. Et on s'est posé la question hier, c'est que finalement la Torah elle a été donnée parce qu'il y avait cette yiridat adorot, c'est-à-dire qu'il y avait cette dégradation. Au fond, la question qu'on a posée hier, je pense peut-être qu'on va travailler là-dessus, mais c'est. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée tout de suite après la faute d'Adam et d'Adam? Parce que si c'est finalement la seule façon de s'en sortir après la faute, pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'arriver jusqu'à Matan Torah, jusqu'à la descente en Égypte? Alors bon, moi j'ai mis une explication habituelle, c'est que Adam et Adam connaissaient la Torah, chez Amélie, etc. Donc, on peut toujours se débrouiller avec ça. Mais on peut aussi se dire, comme on a vu dans le Bekhotai, c'est Im Alartemiti Ekiri, si vous allez avec moi sous l'angle du hasard, de vous laisser aller sous l'angle du hasard. C'est qu'on nous a laissé faire notre chemin de hasard jusqu'au moment où on est arrivé au bout du bout du silence, de l'impossibilité de penser quoi que ce soit, les 49 étapes de l'impureté. Et là, il n'y a pas d'autre choix, soit on meurt, soit on s'ouvre à l'absolu. Mais tant qu'on a l'impression qu'on est porteur par soi-même, que notre langage naturel, que notre valeur naturelle existe, on n'est pas capable d'écouter autre chose. Donc, tant qu'on n'a pas fait ce silence, on n'est capable de rien entendre. Donc peut-être qu'il avait fallu qu'ils arrivent à avoir épuisé tous les sens, un peu l'aporie qu'on a chez Socrate, c'est-à-dire laisser celui qui parle épuiser tous ses arguments jusqu'au moment où il est à bout d'arguments et il est obligé d'écouter. Alors peut-être qu'il a fallu nous venir jusque-là, dans le désert, dans le bas, pour qu'on puisse entendre ce qu'on était incapable de retrouver par nous-mêmes. Et donc la Torah, ça serait peut-être effectivement autorisé comme palliatif pour retrouver le tzedek, parce que sans ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Mais en même temps, Rav Buchner, le Gaon, le Maharal, en même temps, c'est un peu notre ailleurs là, c'est notre vie continue, permanente, c'est notre monde, qu'on porte avec nous. Et là, ce qui rend optimiste, c'est de se dire qu'on est légitime, qu'on peut vivre dedans, on ne surfe pas. Voilà. À ce moment-là, attention, tu n'as droit de le faire que parce que tu te tais. Tu n'as le droit de l'entendre que parce que tu te tais, et tu n'as le droit de l'utiliser que parce que tu vas t'en servir pour rendre la justice. Ce n'est certainement pas ta connaissance. C'est-à-dire qu'il aurait, si admettons qu'après la faute d'Adam et Rishon, finalement on aurait pu vivoter avec un petit chacun portant, il y a pas mal de gens qui pensent que ce qu'on a même je vais faire ce que je veux, en fait. On a ce passage dans Salaf Sivan Dvarim. Donc, je vais mettre Bartal. C'est-à-dire celui qui va. Ouais, donc il va se dire, je vais faire ce que moi je pense bien, ce que moi j'ai envie de penser. Donc ça, c'est attention. Hein. C'est-à-dire que c'est pas. Il n'y a pas cette possibilité de faire coexister sa propre échelle de valeur et une autre échelle de valeur. Donc, il n'y en a plus. Donc, tant que les deux sont existants, il n'y a pas de place pour la connaissance. Donc, celui qui s'imagine qu'il peut se glorifier de ça, peut se l'approprier, en fait, dans une certaine. En fait, on n'est qu'en situation de réceptivité aujourd'hui. On n'est pas en situation de possession. Que parce qu'on est dans le langage de la communication, mais que le idem c'est une condition pour revenir au langage de l'homme, qui est le deuxième niveau, mais dont on a vu, et je pense que Hirsch là-dessus est tout à fait précis, que ce langage il a sa vérité. C'est peut-être pas un langage dégradé, le périple que j'ai fait par le reste de la Torah d'Arrêt, c'est que le langage de l'homme, en fait, Dieu lui a confié une partie du langage. en montrant que même dans sa propre parole, il y avait un décalage entre ce qu'il dit et le créé, et que le décalage, c'est à l'homme de le rabouter, c'est qu'il a donné au rôle de l'homme, à sa parole, à sa prière, un rôle de Hashem Barayim Arasot, c'est-à-dire de compléter la création. Donc dans ce langage humain, il a une parcelle de vérité, et on peut dire qu'on a tous la même parcelle de vérité, sinon on parle pas de la même chose. Donc il a une vraie valeur authentique. Et le idem, probablement, c'est parce que comme il y a le risque du langage communication, du bavardage en fait, et du langage de la précision, de la rigueur scientifique, et du coup, de la science, en l'occurrence, telle que l'a décrit Borges, c'est la prolifération du langage pour ne rien dire, en fait, parce qu'on ne sait rien dire, pour couvrir le silence. Donc c'est contre ça qu'on nous dit, vaut mieux se taire, parce que c'est votre seule façon de vous rapprocher au véritable monde. Et d'écouter ce que dit l'autre aussi, d'écouter ce que dit le maître, et d'écouter ce que dit l'autre. C'est un instrument. Il n'y a rien à dire dessus tant que ça ne devient pas dépendant de celui qui parle et de celui qui écoute. Aujourd'hui, le langage, il est ajusté à sa cible. Le langage de la communication, c'est de donner aux gens à entendre ce qu'ils ont envie d'entendre ou de dire ce qu'on a envie de dire. Et si ça correspond, tant mieux. De préférence, on va les tordre l'un et l'autre de façon à ce que ça puisse correspondre. Donc dans le texte de Walter Benjamin, il décrit très bien cette... Effectivement, il faut bien qu'on puisse communiquer, parce que... mais on voit très bien qu'au moment de Babel, à quoi leur sert de communiquer, à se faire un nom, à se donner un nom lui-même, ce qu'on fait tout le temps, on se donne des noms, des titres, etc. Et ça sert à une chose, c'est à construire une entreprise qui est déshumanisée et qui va venir. C'est-à-dire qu'en fait, le langage comme instrument, l'outil qui nous est donné, je pense que le texte de Scholem a peur de ça, faire du langage un simple outil qui est à la merci de la complaisance, du mensonge, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est que ce langage déconnecté du réel, si on va donner des noms d'oiseaux aux autres, plutôt que des noms tout court, en fait on se sert du langage comme d'une arme. Et bon, je pense que c'est pas ici que... Enfin, on a quand même tellement de halakhot sur le lachon, sur ce qu'on peut dire et ne pas dire, qu'il y a une méfiance énorme par rapport à ce qu'un langage est capable de dire et pas dire. Et le langage de la pure communication, surtout tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais comme ça a été très vite dit, c'est-à-dire que pourquoi pas tordre un peu les choses à partir du moment où ça permet de se parler. Au fond, c'est plus important de se parler, même si ce qu'on se dit n'est pas juste. Et c'est ce langage de communication quand il est coupé de son instance de réalité, de vérité. Peut-être que vous avez raison dans l'absolu, enfin dans l'impossible, mais quand on voit ce que c'est devenu, tu vois la création dans laquelle on est, je pense que ça dit bien, par exemple, que sauf Marassé, le Marachevat et Kila, qu'il y a une déviation d'un degré au début, ça donne à la fin un désastre. Une petite déviation par rapport à l'exigence de vérité, ça devient à la fin n'importe quoi. Tout est vrai, tout est possible. Cette dimension du silence pour écouter l'autre, ce qu'on a évoqué à la fin, c'est-à-dire que ce langage, il n'est possible que si d'abord chacun vient chercher à l'intérieur de son propre silence ce qu'il a à dire, ce que dit Benjamin dans sa lettre à Buber, c'est qu'il faut être capable d'aller chercher du plus profond du silence ce que le langage veut vraiment dire, et aussi d'entendre dans le silence de l'autre, enfin, de lui donner la possibilité de dire quelque chose. Alors à ce moment-là, bien sûr, que le langage c'est merveilleux, que cette communication-là est merveilleuse. Et bon, ce que j'ai essayé de dire sur les lettres qui permettent de se parler, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de se créer un vecteur où on se ment pas, on n'est pas en train de se raconter quelque chose, où on est dans le potentiel, voire même dans le rêve, voire même dans le faux. à tout ce beau. Alors en fait, j'essaie d'éviter ce passage. En fait, parce que c'est un écueil personnel, donc je me méfie de moi là, dans ce que je vais vous dire. En fait, il y a beaucoup d'endroits où on pourrait penser que la poésie, déjà la poésie, c'est pas seulement la poésie. En fait, si on, par exemple, le discours de Nobel de Saint-Jean-Pierre sur la fonction créatrice de la poésie, donc redonner aux mots leur capacité créatrice, c'est se rattacher à quelque chose de cela. Si on reprend, puisque là, bon, tout ça c'était plutôt interdisciplinaire, en fait, il y a quelques références qui sont à peu près évidentes quand on pense à ça. Tout d'abord, par exemple, un des textes très importants sur la tâche du traducteur, donc qui est l'autre texte très important sur le langage dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui parle de cette possibilité du traducteur, c'est une préface à la traduction des travaux de Baudelaire. Et bon, chez Baudelaire, il y a cette histoire de tout qui parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Il y a une langue de natale, et il y a les choses qui parlent. Il y a chez le poète, chez Baudelaire, et chez pas mal de poètes, cette capacité de retrouver une langue que seule la poésie va autoriser. Avant la terre bleue comme une orange, on va jusqu'au bout de la. Et probablement celui qui a le plus pensé ça avant qu'on arrive au XXe siècle, c'est Mallarmé, puisque dans tout ce qui est sur les signes, sur la, par exemple les textes de Claude Michou sur Mallarmé reprennent ça très très bien, c'est cette volonté d'utiliser la poésie pour donner aux mots une capacité limite, en fait, d'aller jusqu'au bout de ce que le mot peut dire, pour ensuite que le silence, exactement ce qu'on a, le blanc de la page, etc., qu'on retrouve chez Mallarmé, qui, bon, je ne pense pas qu'il y ait une inspiration polaristique ou quelque chose, mais qu'on retrouve tout à fait de façon extrêmement exacte là-dedans. Donc, la référence réelle de Walter Benjamin, elle est dans deux poèmes d'Hölderlin. Il a écrit une préface sur deux poèmes d'Hölderlin. Donc, c'est une référence toujours douteuse à cause de Heidegger, mais c'est. Et d'ailleurs, sa préface, elle est contre la lecture de Heidegger, de la poésie, avec le retour à la terre, etc. Mais chez Hölderlin, il y a quelque chose que je n'ai pas voulu dire ici, mais que tant pis, maintenant je le fais, cette construction sur l'idée que les dieux de l'Antiquité étaient l'absolu, enfin, la civilisation grecque, les dieux de grecs étaient l'absolu, et que depuis, c'est la. Ils sont peut-être sur Diotime, mais tous ces textes, c'était certains fragmentaires de Tromplet sur cette. Mais le Hölderlin de la maturité, en fait, c'est celui qui va essayer de retrouver la mythologie et qui va rattacher à des personnages de ce présent. Donc, alors, en se rappelant, et bon, je peut-être cette déviation après, parce que sinon je vais me perdre dans ce que je vais dire, c'est que la volonté de Hölderlin et la langue de ces deux poèmes, et beaucoup de poèmes de Hölderlin, sont construits sur une volonté de forcer le langage, jusqu'au moment où il retrouve cette pureté qu'il aurait eue au moment de la Grèce, au moment des Grecs. Donc il essaie de retrouver une pureté originelle de des mots en remontant ça, et il le dit, c'est explicite sur Hölderlin, cette nostalgie, cette volonté de recréer quelque chose. Alors, ça, si on se rappelle qu'il était à l'école en fait avec Hegel et Schelling, celui qui a le plus essayé de donner aux choses un sens par elle-même, chez Schelling, en fait, en donnant à la réalité d'une chaise une présence, donc un en soi de la chaise, si on veut dire, c'est une volonté de, dans le présent, d'aller chercher quelque chose qui se serait perdu par la dégradation depuis la mythologie. Donc quelque chose qui n'est pas très éloigné de ce qu'on essaie de dire, sauf que il suffit de voir comment ça a été lu par Heidegger après pour dire que c'est le retour à la terre et le retour aux valeurs sûres paysannes de l'Allemagne qui redonne l'authenticité. Et là, le texte qui fait référence, c'est le texte de Adorno, le jargon de l'authenticité. En fait, à force de parler d'authenticité, on peut raconter n'importe quoi. Donc j'ai essayé d'éviter ce mot pendant tout l'exposé. Vérité aussi. Il y a comme ça des mots, je ne sais pas si on faisait chaque fois qu'on s'est payé un euro. Quand on les emploie, on fait des fortunes, il y a excellence, gouvernance, etc. Et il y a communication, il y a, enfin bref, l'autre aussi. Enfin, il y a des mots comme ça, tiroir, et qui pourraient rapporter beaucoup si ça devenait des tiroirs-caisses, mais qu'on n'utilise pas comme ça. Et donc, c'est Heidegger sur Hölderlin, il va tordre ce discours de Hölderlin comme ça. Mais Hölderlin, ça va jusqu'au silence, c'est-à-dire qu'il va pousser les choses jusqu'à la fin de sa vie, où il n'est plus capable pratiquement d'écrire une poésie entière, c'est des fragments, parce qu'il va jusqu'au bout du langage, il va l'épuiser dans cette possibilité-là. Donc ça, on peut le trouver dans la poésie. Il y a une autre référence qui s'impose, c'est Joël Bousquet, donc dans ce livre qui s'appelle Traduit du silence, cette volonté d'essayer de faire sortir les mots d'un silence essentiel. Donc la poésie, c'est certainement possible, mais la poésie, c'est la poésie de chacun. Il y a un autre texte, par exemple, c'est Camus, à propos de René Char, où il dit « faire coïncider le ciel et la terre ». Donc c'est des choses qui nous parlent, qui peuvent nous parler. Mais le problème, c'est qu'avec ça, on peut dire tout et son contraire aussi. Et c'est la possibilité que le langage, à un moment donné, avec les mêmes mots, avec la même volonté. C'est pour ça que j'avais très peur, en fait, d'utiliser d'autres références que des références de la Torah, parce qu'on est quand même dans un système qui, s'il n'a pas de cohérence, nous force à une cohérence dans notre vie. Alors que la lecture qu'on peut avoir de poèmes de Hölderlin peut conduire au nazisme ou à être du côté des victimes, pour prendre cet exemple-là. Donc, l'autre, que j'arrête, mais c'est tout le thème du point de Steiner sur langage et silence. C'est comment on a pu écrire autant de poésie, comment on a pu faire tout ça. Et finalement, pourquoi est-ce qu'il veut vraiment cette lecture? Il y a tout ce livre qui est magnifique sur ça. Donc, c'est effectivement la poésie, on aurait envie de se rattacher à ça. Walter Benjamin le fait, clairement. Je pense que c'est un chemin de crête, donc un peu risqué. Tzedek, certains le disent comme la Torah. Donc, Tzedek et Daderum, en fait, c'est un des mots de la Torah. C'est-à-dire que c'est peut-être pas une dimension réduite. Je pense qu'on est obligé d'avoir le mot Tzedek à cause de la fin où on nous dit de ne pas nous glorifier, d'étudier la Torah. Et donc on nous dit attention, c'est seulement parce que vous faites du Tzedek que vous avez le droit de parler. Mais et je pense que c'est pour ça qu'on a ces trois étages dans le texte. C'est que dans le texte médian, sur Tzedek et Daderum, on peut le dire, c'est la Torah. Ça vous parlerait dans la Torah, les Divartabam. C'est une façon de dire les choses comme ça. Et comme il y a ce risque de s'imaginer que du coup on parle la Torah, on nous dit attendez, c'est juste une valeur pour vous, c'est opérationnel. C'est pour faire la justice. Donc c'est pas de la poésie. On peut aimer, mais c'est pas. Que je disais à propos de Pierre Cavot, c'est qu'on a l'impression que le fait de parler, parce que c'est extrêmement brutal, le métier de l'homme, c'est le silence. Donc si le métier c'est le silence, c'est comme on a l'impression que le métier de l'homme c'est d'étudier, ça veut dire qu'il devrait se taire dans l'étude aussi, on a l'impression que ça devrait, puisque bon, on n'a pas été lancé sur l'instant, mais à Nagdaen, il y a des référettes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le comportement quotidien dont il s'agit tout le temps, c'est Baem dans la Torah. Donc finalement le métier de l'homme, ça serait l'étude de la Torah, et on dit mais non c'est le silence. Donc ça veut dire, donc même pour la Torah, peut-être qu'il faudrait se taire tout le temps. Ce qui est complètement paradoxal, parce que du coup comment est-ce qu'on peut même comprendre quelque chose. Et donc on a l'impression que s'il n'y avait pas cette référence dans le livre, un peu c'est pas les choses quand même, on ne pourrait pas le faire. Donc je pense que c'est pour répondre à une provocation, on a l'impression que c'est un entre-deux, que ce texte, c'est pour nous mettre en tension. C'est-à-dire pour nous dire, au fond, peut-être qu'il vaudrait mieux faire, mais pour étudier la Torah, évidemment qu'il faut parler. Il faut parler en se rappelant qu'il vaudrait mieux se faire. Donc ce dialogue entre les deux, ça crée un entre-deux, il doit situer notre chemin des études. Et sans doute, peut-être, par exemple, le même que vous montrez, c'est de dire que le chemin, c'est qu'il y en a un qui parle, qui étudie, l'autre qui écoute, et qu'en permanence, ça n'est possible d'entendre que parce qu'il faut se taire. Donc, en fait, les deux coexistent. Peut-être que c'est pas forcément le silence ou la parole, comme on l'a sur le noir des lettres et le blanc de la page. Les mots sont une grammaire du silence. Et le silence, c'est une condition d'émergence du discours. Mais les deux sont nécessaires. Et donc, c'est pas que l'un s'oppose à l'autre, mais peut-être que les deux ensemble construisent un chemin. Et qu'après, on nous dit, attention, c'est pas un chemin très haut, c'est un chemin très terre à terre. Si on reste sur l'idée qu'une parole n'a de sens que d'un fait de la vie, c'est-à-dire qu'elle est, qu'en réalité presque tous les textes sont des textes de à la fois de chemin, et que ce sont des textes qui sont là pour établir des conditions de vie, que finalement ils trouvent leur sens dans l'action, dans l'action, parce que tous les textes ont un lien avec une action très concrète, très matérielle. C'est pas forcément une descente de niveau, c'est peut-être simplement dire que la hauteur de la vie, elle est quand même définie par l'action. Et peut-être la référence à David Améler, qui est dans le psaume, en fait il est en train de dire quel usage faites-vous de la parole et quel usage faites-vous du silence. Vous vous en servez pour me juger, pour me calomnier, et quand vous pourriez parler en ma faveur, vous ne parlez pas. Donc peut-être que Shmira Salachon, c'est pas juste un avatar du XXe siècle de l'histoire du peuple juif, c'est que tout le long, savoir se servir de sa langue, savoir se taire, savoir parler, c'est se rappeler que c'est la même parole qui a été prononcée, que c'est la même parole qu'on utilise tous les jours dans toutes les circonstances de la vie et pour nous juger les uns les autres, quelque chose qui relève de l'infini, de l'absolu. Donc en fait, on passe son temps à faire des allers-retours entre le haut et le bas.
Gracias.
Non, y a, en fait, y a, même si on regarde comment ça reste de très sollicité le rapport par les humains, c'est par je pense que c'est encore, c'est sur l'histoire de Paul de Namadaka, c'est-à-dire que une voix de transcendance, parce que traduit les humains, c'est comme ça, donc ce moment où on essaie, ils essayent d'entendre la voix de Dieu, et elle n'est pas dans le bruit, elle n'est pas dans le tonnerre, elle n'est pas dans les éclairs, elle n'est pas dans tout ça, c'est à propos des bichards, je crois. Et c'est à un moment donné, on entend une Paul de Namadaka, une voix de transcendance. Donc ça veut dire que dans le monde dans lequel on est, si on entend ça, il y a toujours dans ce silence une parole en permanence, qui est la parole du divin, qui s'énonce, mais qui s'énonce dans la présence du monde. Quand qui est présente là, pas dans un panthéisme, mais dans une espèce de présence sourde, sourde pour nous, qu'on peut s'efforcer d'entendre. Donc c'est vrai qu'on se résigne au silence parce qu'on sait peut-être plus très bien servir du langage, ou on se méfie du langage. C'est tout ça, c'est de dire attention, l'abus de parole nuit à la compréhension de ce que le silence pourrait donner à entendre. C'est forcément une coexistence des deux, ça peut être que ça en permanence. Et ce texte, parce que si j'entends bien, c'est qu'il nous dit qu'on a besoin en permanence des deux, qu'on n'a pas un qu'on peut être érigé en valeur absolue, même la parole divine, à la limite, elle est silencieuse. Parce que même les 10 paroles, ça peut être peut-être seulement un aleph, peut-être seulement un silence. Ouais, il y a des commentateurs qui disent qu'ils n'ont entendu que le aleph et un aleph. Ne pas être sévère, mais on met en garde tout le temps contre son usage, le bon usage que j'ai eu. C'est qu'en fait, oui, en potentiel, c'est ça, c'est une langue soit émettre, mais je crois que c'est un combat, la vérité, c'est une conquête de retrouver pourquoi il faut tellement étudier, pourquoi il y a toute cette HBLP. C'est ce que me disait Yvonne, c'est que la méfiance des traductions, c'est pas tellement la traduction, c'est qu'on perd la Torah HBLP dans la traduction la plupart du temps. C'est qu'il y a besoin de faire émerger. C'est pas si évident que ça, que même dans la zone à Kodesh, ça soit en soi. Top meilleur de je n'ai vu ça. Et Tzedek, on dit Tzedek Tirdof, hein, c'est une recherche, hein, Tzedek. Tzedek Tirdof, c'est pas un bien acquis comme ça, c'est une recherche que le texte nous permet. Avec erreur possible. Enfin. On veut savoir qu'elle a existé ou qu'elle existe toujours. Mais bon, le même Midrash, il parle d'un artisan à propos d'Hachem, Ouman, Oumanuto, qui utilise la parole pour créer, et puis on dit tout le temps que dans une des suites, je ne suis pas dans la Kabbalah, mais un niveau, ce qui est pensé devient action, dans le, ce qui est l'action d'un et la pensée du monde d'en dessous, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de maillage permanent entre la pensée et l'action à tous les étages, donc c'est pas dialectique, mais c'est dialogal en fait entre les deux, c'est quelque chose qui s'égrène progressivement, avec des niveaux de réflexion. Pour nous, je pense que ça ne nous parle pas forcément de savoir qu'il y a une parole qui a été créatrice, mais c'est donner la dimension de ce qu'est la parole, en fait, c'est donner son absolu de départ. C'est pas forcément intelligible comme ça, mais ça donne le niveau des choses. Ce qui nous définit, hein. Qui nous définit. On est défini par voir nos malheurs. C'est donc pas un accessoire qu'on porte, un petit luxe qu'on aurait par rapport aux bêtes, c'est notre définition. Et savoir que la parole est créatrice ou destructrice, éventuellement, ça donne une hauteur toute particulière. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai pas de prétention. Moi, c'était juste un exercice obligé, mais il m'a donné l'occasion de travailler.